Chapitre 8e. Mon aimé, je t'écris d'Abomey, sous une hutte que nous venons de transformer en grand café Carnot, au milieu de spahis hurleurs affublés de jupons et de légions étrangères empêtrées de grands voiles blancs abandonnés par les féticheurs dahoméens. Les palais de Béanzin flambent, les bouteilles de champagne pétaradent. Sous une cabane de pissé, trois femmes du roi dépossédées, effrayées de nos chants et de nos airs, baisent les amulettes protectrices pendues à leur cou sous la garde d'une demi-douzaine de marsouins. Notre allié, le roi Tofa, à qui on vient de donner le fameux trône du roi Béanzin, un simple fauteuil doré, fait des gambades derrière les officiers du colonel Dodds. Les Noirs embrassent leurs frères blancs. Dans toute cette joie, une petite déception. Nous n'avons pu découvrir le trésor du fils de Gléglé. J'ai pris part aux fouilles faites dans les caves du palais, à la lueur des torches, sous la conduite d'un lieutenant qui se montrait fort sceptique touchant l'existence des fameux millions économisés pour les besoins de la guerre par les prédécesseurs de Béanzin. Entouré d'Allemands et d'agents européens, âpres à la curée, le roi a dû, disait-il, convertir lingots et pièces monnayées en superbes marchandises de pacotis. Comme nous allions à la recherche des mystérieuses cachettes, j'observais mes compagnons sondant à coups de crosse les parois du souterrain. Pâles et maigres, le visage sali de barbe en mousse, les yeux luisants, ils ressemblaient à des aventuriers en quête de butin. Je ne reconnaissais plus mes braves camarades, enlevant le pont sur le zou en une ruée de leur corps grandi sous les balles, en une course à la mort, derrière le lambeau d'étoffe, drapeau de France. Ils grimaçaient déjà de dépit quand un sous-officier heurta une porte du bout de son fusil. Sous les coups de hache, le bois se fendia, puis s'effrita en escarbille, laissant voir en retrait où s'étaient réfugiés trois dahoméennes. Elle nous suppliait, accroupie. Le sous-officier dit « Ce n'est que des femmes. »« En tout cas, ce n'est pas le trésor, » ajouta le lieutenant. « Emmenez-les et que personne n'y touche. » Il y eut un « Oh !» de protestation générale. « Ici, ici, j'ai trouvé !» cria un spahi. Sous sa botte, le sol résonnait comme un tam-tam. Les pioches crevassèrent la terre battue et mirent bientôt à jour une excavation encombrée d'une demi-douzaine de caisses. Enfin, c'était le trésor. Enfoncés presque tout en même temps, les cassettes royales nous livrèrent une riche collection de parapluies, ombrelles, encas, de toutes les couleurs et de toutes les dimensions. Il y avait là des parapluies de forains rutilants, larges comme des tentes, et aussi nombre d'auréoles de soie gorge de pigeon qui préservent le teint des européennes du soleil d'août. Un extiti du théâtre Montparnasse grasseya. Bah, où est-ce qu'il a le riflard de l'escouade ? Un accès de rire calma un peu la fièvre de l'or. Puis les recherches continuèrent amenant la découverte de bouteilles de champagne que l'on décoiffa un brin, de pagnes bariolées, de rouleaux de cotonnade, de glace de poche à étui en zinc, de peigne et de strapontin. Le titi se roula sur le sol, criant « Je me tords, je me tords !» C'est donc ça qu'on trouvait plus de nuages de vol à pug, de sous-lieutenant, de l'observatoire à Ménilmontant. C'est le petit Bessincin qui avait refait tout ça pour ses tripotées de femmes. Gros malin, va. En une large galerie servant de remise royale, étaient rangés quatre affreux carreaux achetés à quelques rois en déconfiture. Allons bon, dit le faubourien, les guimbardes du sacre, maintenant. Des ornements dorés se dressaient en arabesque aux quatre angles des caisses peintes bleu de Prusse, pourtant des armes que le Parisien traduisit de la sorte. Gueule de caïman sur champ d'ébène avec poire semée à droite, à gauche, sous la couronne de la gracieuse Queen Victoria, surmontée de licornes qu'on déchaîne au ventre. Quel blason, mon empereur ! Les perquisitions achevées, mes camarades emportèrent les caisses de champagne devant les huttes où ils boivent maintenant, criant à tue-tête les scies de régiment. Le peu de vin que j'ai pris m'a presque grisé, mignonne, et je t'écris des choses gaies, d'une façon un peu décousue. Puis je souffre un peu de ma blessure. Oui, je suis blessé, si peu. Une éraflure déchire à l'épaule. Mais je ne suis pas atteint assez grièvement pour obtenir le bout de ruban que je voulais. Je n'ai pas l'air vainqueur, moi. Je dois ressembler aux pauvres femmes que gardent les marsouins. J'ai, je crois, un peu de fièvre. Je t'embrasse, mon aimé, je t'embrasse. Et mets vite ma lettre sous enveloppe, de peur, oui. Je t'embrasse. À toi, toujours, André Bamberg, de la Légion étrangère. J'ai eu beaucoup de fièvre, mais cela va mieux. le bras gauche maintenu par une écharpe, je t'écris difficilement, en invalide. La convalescence maquille de blanc peu à peu ma peau autrefois brune, et les paupières pèsent moins sur mes pauvres yeux encore brouillés des terribles visions du cauchemar. Je te voyais, costumée de flanelle blanche, luttant contre les Amazones. Elle t'entraînait dans la brousse. Tu m'appelais et je ne pouvais rien. Oh, l'horrible chose! Tes cris, tes yeux qui me reprochaient ma lâcheté, cela me tuait, me tuait. J'ai prononcé ton nom, paraît-il, dans la nuit de ma pauvre cervelle détraquée. Et le major m'a soigné en excellent homme qui ne veut pas de larmes sur les joues d'une petite amoureuse. Il vient près de mon lit et m'ordonne de ne plus écrire. J'obéis. À demain. J'ai retrouvé dans ma poche la lettre que je t'écrivais il y a 8 jours, après la prise d'Abomey. Je t'enverrai tous mes griffonnages en même temps. André. Le major a demandé et obtenu mon retour en France. Je suis heureux. Mon capitaine, qui m'a rendu visite à l'ambulance, m'a assuré que je m'étais distingué pendant la campagne. Le colonel, a-t-il dit, a demandé quelque chose pour moi. Je n'ai pas fait davantage que la plupart de mes camarades. Si je suis un des rares blessés de la Légion étrangère, c'est que les autres sont morts d'estafilades plus graves que la mienne. J'ai reçu une des dernières balles tirées par les Dahoméens, une de ces balles que l'on nomme « balles perdues », précisément parce qu'elles atteignent toujours quelques pauvres diables. Je te reviens, mignonne, plus aimant qu'à mon départ de France, ou plutôt, sachant mieux combien tu mérites d'être aimée. Ne crains rien pour ma santé. J'arriverai à Paris encore hâlée mais guérie. Et la fièvre, et la vilaine fièvre, me diras-tu. Baste, la fièvre ne m'effraie plus. J'ai une autre fièvre en moi, la fièvre de te revoir, qui va l'expulser tambour battant. Tous mes souhaits pour la bonne petite Lambomée qui te remettra cette lettre. Que faire pour te gagner, mon aimé? J'ai un tas de projets en tête qui me semblent facilement réalisables. Amoureux et convalescent, j'espère. Bientôt à toi, mon aimé. André Bamberg. Cette lettre arriva au moment où Simone, inquiète et cédante aux instances de la petite bossue, allait consulter une tireuse de cartes sur le sort de son fiancé. Lambomée, superstitieuse, interprétait les songes de Mademoiselle Gosselet avec une assurance qui en imposait à la pauvre amoureuse. Elle disait « Tu rêves dedans, c'est mauvais signe, très mauvais signe. Et puis ces cheveux noirs qui mordent ces cheveux blancs, on voit bien ce que ça signifie. À ta place, je ne serais pas rassurée. » Simone, d'abord sceptique, commençait à prêter l'oreille aux propos de son amie, qui lui vantait le savoir d'une ex-cuisinière experte en l'art d'éplucher la destinée des pauvres humains. « Tu verras, c'est amusant chez elle. Elle habite près des quais, un grand appartement toujours encombré de vieux messieurs qui ne veulent pas mourir, de bonnes qui espèrent gagner le gros lot à la loterie, de dames très chiques qui attendent la venue de celui qui payera le terme. J'y accompagnais un jour la grande Bobèche. La grande Bobèche venait de lui demander si son amoureux était toujours fidèle. Pour 40 sous, nous avons eu le petit jeu. La sorcière a battu les cartes et a prédit à mon ami qu'une reine blonde lui mangeait le cœur. Manger le cœur, c'est une façon de parler. Pour 100 sous, la vieille nous aurait préparé le grand jeu et nous aurions pu savoir si Adolphe épouserait la reine blonde. Malheureusement, la grande Bobèche n'avait pas assez d'argent. Alors la sorcière lui a dit « Il y a un moyen plus sûr de savoir si vous êtes toujours aimé, mais il me faudrait un objet ayant appartenu à la personne. Un mouchoir sale, par exemple. Pourquoi sale ? Dame, je ne sais pas. Peut-être pour y lire l'avenir comme dans un livre. » Cette interprétation des événements futurs, d'après les données fournies par un linge sale, avait provoqué un rire fou chez Mademoiselle Gosselet, au grand scandale de la petite bossue. « Je ne vois pas ce qui peut te faire rire. Je t'assure qu'il n'est pas bien portant, je le devine. D'ailleurs, tu ne l'aimes pas assez. » « Comment ? Je ne l'aime pas assez. » Ce fut une querelle, puis une brouille de 10 minutes suivie d'une réconciliation. André revenait en France. Il guérirait vite, retrouvant l'aimée prête à se donner comme au jour où ils avaient préparé leur fuite. Simone pensa, une roseur aux joues, que papa Gosselet ne pourrait cette fois retarder l'offrande de tout son corps à celui qu'elle avait choisi pour époux. Lambomée triompha à la lecture de la lettre. « J'avais raison, tu le vois bien. Rêver dedans, c'est signe de maladie grave ou de mort ?» Simone répondit aussitôt à André. « Mon cher aimé, qu'y a bobo sans que je puisse le soigner comme on soigne un tout petit que l'on adore. C'est drôle, mais je t'aime d'une tendresse si infinie, si profondément douce, quand je te sens avoir mal, que tu ne me sembles plus du tout un grand, mais un tout petit, que je pourrais tenir en mes bras pour le bercer, en le couvrant et l'enveloppant d'un amour fou. Pauvre mignon qui a bobo, pense que je t'aime de toute mon âme. J'adore tout ce qui est de toi. Je cherche dans la figure des mots que tu m'écris ce que tu as pensé. Oh oui, je serai à toi pour toujours. Tu as emporté mon âme, mon cœur. Si je t'avais ici, quelques bons et beaux dodos je te ferais faire. Je serais ta petite maman, comme je te soignerais. Je t'embrasse, les deux bras autour du cou, très doucement, très fort, très tendrement. Tu vas bientôt m'envoyer mon baiser du soir. Je le sens presque d'avance. Quand je le sentirai en moi, je rêverai du paradis, de toi. N'oublie jamais de m'envoyer le baiser promis. En osant même beaucoup, beaucoup, je les sens tous. Ils ne se perdent jamais en route. Moi, je t'envoie aussi un baiser, un de ces longs baisers qui me font des airs de petite morte, à force que c'est bon. 15 jours s'écoulèrent dans la monotonie des mêmes occupations, des mêmes pensées. Les deux amis, au retour de l'atelier, se racontaient les menus faits de leur journée et cousaient les robes neuves qu'elles mettraient le jour où elles iraient l'attendre à la gare de Lyon. Elle disait lui, simplement. L'embaumée changerait l'andrinople de sa chambre pour lui faire fête. Simone achèterait une grande bergère, parce que ses petites chaises de velours rouge à bâtons dorés ne seraient pas assez confortables pour lui, un convalescent. Nous serons deux pour l'aimer, le soigner, le dorloter, pense un jour tout haut l'embaumée. Simone leva les yeux sur son amie et rit franchement de sa confusion. Une bossue, ça n'aime pas. Le dimanche, Mademoiselle Berthe venait en amie et en voisine partager le pot-au-feu. Mademoiselle Berthe n'était plus la petite ouvrière babillarde et moqueuse d'autrefois. Le ronronnement de sa machine à coudre l'agaçait. Son serin sifflotait toujours les mêmes herbes bébêtes. Le papier de tenture de sa chambre lui semblait d'un gris attristant. Elle se frottait le nez à toutes les glaces et demandait « N'est-ce pas que je vieillis ?» Simone et l'embaumée lui répondaient en la complimentant sur la fraîcheur de son teint et l'éclat de ses mirettes. « C'est bien ce qui m'ennuie, cet éclat des yeux, ce n'est pas naturel. »« Mariez-vous, ma chère Berthe, » conseillait Simone. « J'ai peur du mariage. »« Alors prenez un amoureux, » répliquait la petite bossue impatientée. « Un amant, jamais. » Un jour, elle ajouta, éprouvant sans doute le besoin de se défendre contre quelque vouloir dissimulé. « Les hommes sont si lâches, si lâches. Si je prêtais l'oreille aux jolies paroles embusquées au coin de quelques moustaches, n'aurais qu'à penser à pauvre Jeanne pour me reprendre toute. Vous étiez à l'atelier quand deux hommes l'ont presque porté jusqu'au fiacre qui attendait en bas. Au premier cri de douleur, j'ai couru à la recherche d'un médecin de quartier. Il est venu et m'a avoué que l'accouchement serait difficile, qu'il faudrait peut-être écraser l'enfant avec des fers pour sauver la mère. Il a regardé autour de lui, a évalué le prix des meubles, a pensé que la malade était trop pauvre pour payer les frais d'une opération coûteuse et a dit « Conduisez-la à la maternité. » Elle pleurait. Je l'ai aidée à mettre une jupe, puis le grand manteau à bordure de plumes qu'elle avait acheté quand il l'a connue. Elle ne prononçait pas son nom, mais tournait les yeux vers la porte quand les voisines venaient voir, curieuses et aussi apitoyées. Avant de sortir de sa chambre, elle a regardé les portraits accrochés à la cheminée, son père et sa mère, puis a essayé de faire marcher ses pauvres jambes. Elle disait « Jamais je ne pourrai arriver en bas, je mourrai dans l'escalier. » Accrochée des deux mains à la rampe, soutenue par deux locataires, elle a descendu les 6 étages, degré par degré, soufflant et geignant. Les commères, qui se moquaient autrefois de son gros ventre, se penchaient, pleurant, sur la cage de l'escalier d'où les plaintes montaient de plus en plus faibles. Dans la voiture qui allait au pas, elle regardait par la portière les gens qui passaient sur le trottoir, espérant encore qu'ils viendraient. Des filles ont passé en courant, les jupes troussées, sous le nez du cheval de fiacre. Elle a dit dans un hoquet douloureux « Elles sont bien heureuses d'être toujours jolies, elles. » Elle m'a embrassée et nous avons pleuré dans la salle d'attente de l'hôpital. Elle m'a remercié, m'a pris la main. Je voyais qu'elle voulait me demander quelque chose, mais qu'elle n'osait pas. Alors, pour lui épargner un peu de honte, « Il saura où vous êtes. Je l'en informerai, s'il vient. » Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi je ne lui en veux pas, ma chère Berthe. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'aimez personne. Je sais qu'il viendra. Mais il viendra peut-être après. Je veux qu'il sache que je l'aimais bien. On l'a emporté. Moi, j'ai pris la fuite pour ne pas pleurer devant les infirmières. Oh, le lâche! Oh, le lâche! Et qu'est devenue, pauvre Jeanne? Demanda Simone. Elle est morte. 8 jours après, Mademoiselle Berthe chantonnait sur le palier, accoudée à la rampe, attendant le retour du jeune homme qui écrivait des choses dans les journaux. Simone, revenant de l'atelier, lui tendit la main. La petite couseuse de jersey l'emmena dans sa chambre, la fit asseoir, puis bredouilla. « Ce n'est pas ma faute, je vous assure, mais j'étais si seule, puis il est si gentil. » Simone écoutait, surprise. « Ah, vous ne savez pas. On en cause cependant à tous les étages de la maison. J'aime Fernand, Fernand le poète. Et Fernand m'aime. Il ne faut pas m'en vouloir. Je commençais à devenir vieille. La veille, j'avais trouvé un cheveu blanc sur la tempe. Puis, Fernand n'est pas comme les autres. Je me fais beaucoup de reproches, mais vous ne me méprisez pas trop. Il a promis de vous épouser, monsieur Fernand? Non, je ne pouvais pas lui demander ça, un poète. Vous êtes bien à plaindre, ma pauvre Berthe, voilà tout. Mais il n'est pas comme les autres, du tout, du tout. D'ailleurs, il dit que les femmes l'ont beaucoup fait souffrir. J'essaie de le consoler. »